Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Salut Stéphane.
Bonjour Philippe Vincent, comment se passe ton vendredi?
Ah, je me peux plus.
Tu te peux plus?
Ah, je me peux plus, c'est le fun.
Dans ta voix, je le sens, c'est une énergie contagieuse, une espèce d'enthousiasme délirant qui me donne envie de ne plus me pouvoir moi-même.
Ben non, mais c'est
le une autre fois, puis écoute, des ailes me poussent.
Bon,
c'est trop.
Je veux me parler de Balenciaga.
Oh, oui, Balenciaga.
Balenciaga.
Je vois que tu es un plouc et que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens de t'habiller de la bonne manière. Balenciaga, c'est comme tu dis, c'est du linge.
Non, mais j'ai même pas les moyens de savoir c'est quoi.
Exactement. Mais ça, c'est aussi très, très branché d'ignorer ces clubs, ces sommets de la hiérarchie, là où ceux qui ont du fric et savent bien vivre se tiennent au sommet du sommet du sommet de la mode dans la haute mode, la high fashion. J'avais envie ce matin, effectivement, puis tu verras malheureusement que tout ça est un peu sordide et moins rigolo que le ton qu'on en donne. J'avais envie de revenir, puis ta recherchiste Cybelle a vu ça passer, probablement que les davantage réseaux sociaux ou sur certains réseaux sociaux que toi.
Ben, plus de goût que moi, en fait, ça c'est sûr.
Je suis pas sûr que dans ce cas-ci, tu vas trouver qu'elle a longtemps du goût, mais elle a remarqué quelque chose qui était un peu malodorant. Donc, je voulais revenir sur une affaire qui circule, donc, depuis peut-être un peu plus qu'une semaine sur les réseaux sociaux, un peu dans la presse, mais c'est passé, je dirais, en dessous des écrans radars. C'est l'affaire Balenciaga, voilà comment on prononce.
Merci.
Géant mondial de la mode qui a poussé peut-être un peu trop le bouchon de l'audace dans une de ses campagnes de publicité. Et je sais que tu as des doigts de fée, qu'à chaque fois que j'énonce une vérité, tu vas vérifier si elle est fondée.
Non, non, mais je regarde,
donc, dans une de ses campagnes de publicité, qui m'enseigne des enfants qui manipulent, ont de jolis petits oursons, un peu comme ceux qu'on trouve sur les pots de beurre de peanut Kraft. Tu sais, le joli petit ourson avec lequel tu as envie de faire guili-guili dans le nombril. Alors, ce sont de petits oursons de compagnie, mais qui portent le parfait petit kit sadomasochiste avec les straps de cuir noir et même de jolis petits mignons cadenas assortis pour en assurer la parfaite soumission. Alors, moi, j'ai sincèrement rien de pudibond. Je suis pas particulièrement pudique. Je suis vraiment ouvert à toutes les sexualités inimaginables entre adultes consentants. J'ai jamais eu d'opinion, j'en aurai jamais. Et si tu as du fun dans ta sexualité, quel que soit le moyen d'y arriver, go mon homme, go ma femme, go mon fluide, have fun. Mais je trouve que c'est un peu révoltant l'idée de jouer sur cette... disons-le, parce que ça en est, provocation transgressive qui laissera entendre peut-être que pour un public éveillé, allumé, progressiste, pourrions-nous même faire le pari, parce que c'est un peu la clientèle de Balenciaga, c'est au contraire tout ça de bon ton. La sexualité, les codes de la porn, parce que c'est là qu'on est, n'ont pas à attendre le nombre des années pour ceux qui appartiennent ou appartiendraient à cette petite élite qui a les moyens de se payer Balenciaga. La transgression, non seulement permise, mais en même temps, je te dirais, garante d'une appartenance à une race supérieure qui n'a ou n'aurait rien à faire des tabous qui accablent les ploucs. Ça, c'est toi puis c'est moi, aux sexualités contraintes, tristes. T'sais, bref, le petit peuple qui ne bande pas pour les bonnes raisons. Je dirais que c'est souvent d'ailleurs, puis je rentrerai pas longtemps dans ce détour parce qu'il est oiseux, mais des cercles pédophiles en haut lieu, il y en a eu, il y en a toujours eu, et c'est peut-être la posture, une espèce de raffinement qui échapperait aux gens de la plèbe, au commun dont on ferait partie. Puis par ailleurs...
Fait que c'est des petits toutous déguisés en sadomaso, puis les enfants jouent avec, là.
Oui, mais tu l'as, la photo?
J'ai revu une photo là, sur les réseaux sociaux.
C'est quand même fou que ça accote pas mal. Puis, écoute, t'as clairement pas une obligation de faire une chronique de 20 minutes. Fait que t'as résumé ça à des petits toutous qui ont l'air sadomaso.
Non, non, ils sont déguisés en sadomaso. Je veux que les gens se fassent une idée. Là, parce que...
Oui, mais c'est évident, les petites bandes de cuir, puis tout les cadenas.
C'est ça, imaginez-vous.
Et dans une autre campagne, parce que c'est pas la... Alors donc, ça, c'est la plus récente, mais dans une autre campagne antérieure, puis c'était vraiment plus subtil, ce sont pas des oursons sadomaso qu'on trouvait, mais des espèces de, je dis bien, des espèces de coupures de presse, c'était pas clair, qui font voir une nouvelle ancienne sur un arrêt de la Cour suprême des États-Unis controversée, qui précisait à ce moment-là qu'échanger, vendre ou transférer de la pédopornographie relevait de la liberté d'expression, donc du premier amendement. Ça, c'est un jugement, si ma mémoire est bonne, là, qui avait été rendu en 2003,
controversé. Ils ont fait circuler ça.
Et invalider le jugement. Alors, c'est-à-dire que ça apparaît dans le décor. T'as une coupure de presse et ça apparaît. Alors, c'est un détail super discret dans la photo publicitaire, évidemment, mais qui pourrait ressembler à une espèce de petit clin d'œil en forme de signe de piste pour encore une fois le public avisé qui sait que l'habit fait pas le moine et qu'à tout le moins, la strappe de cuir est idéale pour seul poigner le moine. Donc, ils disent, on a été victime de l'ensemblier, la compagnie de production, ils se sont pas rendu compte, ils ont pris un décor ailleurs, ils l'ont mis, puis les maniaques de la loupe ont trouvé. Mais ça fait deux incidences ou deux occasions où clairement il se passe quelque chose. Alors, Balenciaga aujourd'hui, c'est pas de leur faute, les articles, ça appartenait donc à un autre décor qu'ils ont emprunté. La production a livré le matériel, personne n'a été attentif à ce qu'on pouvait lire. Donc, comble de malchance, deux en deux, sur les millions de pages de journaux qui auraient pu se retrouver dans un coin obscur de la photo. Fallait que ça tombe sur ce jugement contre...
Mais la complosphère doit capoter là-dessus, parce que là,
je sais pas,
pédophilie, les riches...
Ben écoute, Epstein, je veux pas partie de la complosphère, mais ça s'est rendu à mes yeux. Puis aujourd'hui, Balenciaga met le chapeau, prend ses responsabilités, surtout, je te dirais, depuis que Kim Kardashian a tweeté à ses dizaines de millions de fans qu'elle voulait réévaluer sa relation d'affaires avec le géant de la mode. Ça les a comme un peu incités à accélérer leurs excuses et leur coming out, parce que leur coming out au sens où ils sont sortis de leur torpeur pour dire il y a peut-être quelque chose de fucké, effectivement, on va faire amende honorable, on va faire enquête. Puis là, ils poursuivent l'agence de production qui a fait les publicités. C'est toujours le meilleur moyen de s'en sortir, montrer du doigt, dire on est responsable, mais c'est pas vraiment de notre faute. Puis là où ça mène, en fait, puis c'est... Il y a de la semi-mauvaise foi dans ce que je vais faire, mais quand tu l'annonces, tu me diras que c'est moins pire. Non, c'est parce que ça pourrait être sans signification gravissime si ce n'était pas aussi la preuve répétée de ce qui, moi, me semble, à mes yeux profanes, être une hypersexualisation des enfants qui sont invités à se poser de plus en plus des questions graves sur leur sexualité, leur identité à un âge qui est de plus en plus précoce. Alors, je suis pas sexologue, je suis pas psychologue, je le dis tout de suite, je suis un profane, mais j'ai vu des enfants grandir autour de moi et à défaut d'être un parents parfaits, parce que c'est pas les miens d'enfants que j'ai élevés. J'ai été quand même témoin de ce que c'est qu'une relation entre un adulte et des enfants qui grandissent et de la responsabilité des parents et de ce qu'ils peuvent aussi se poser des questions légitimes pour leurs enfants. Donc, cette hypersexualisation précoce, est-ce que c'est une bonne idée? Puis encore une fois, je répète, je n'ai pas de pudibonderie en moi. Mais je vais juste terminer sur... une anecdote qui pourra peut-être nous permettre de développer davantage la prochaine fois. L'hôpital Tavistock en Angleterre, ou la clinique Tavistock, était le ground zero, en tout cas certainement le lieu où on a le plus travaillé à des protocoles de réassignation de genre pour enfants qui souffraient de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. On traitait une poignée d'enfants, à peu près, je pense, 138 en 2010, plus de 2300 en 2021. Tu feras la statistique, là, c'est une augmentation substantielle. Je dirais pas épidémique, ça serait de mauvais goût, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et on est donc en train, toi et moi, là, de parler d'enfants qui s'engagent dans des processus qui mènent éventuellement à une chirurgie pour aller au bout de cette conversion de genre. Il y a une jeune femme, Kara Bell, qui est une des premières à avoir levé le drapeau dans une poursuite qui a été déposée contre la clinique. Elle prétend qu'elle a été, pardonne mon expression, moi qui vantais les mérites de cette langue française qui claque, mais c'est l'expression qu'elle a employée, fast-tracker, donc encadrée, mise dans un processus d'entonnoir un peu, où le personnel l'a vraiment beaucoup encouragée, disons les choses ainsi, à aller au bout, puisqu'elle souffrait, de cette dysphorie, pensait-elle à ce moment-là, avait des problèmes de dépression liés à tout ça. Et on l'a encadré, incité et sans jamais questionner l'opération, parce que c'est un processus long. On commence par, évidemment, prendre des hormones. On va au bout de la logique, si on le veut, et on devient cette personne dans un sexe qui adoptera un sexe qu'on a choisi. Et on parle à Tavistock d'enfants qui amorçaient ces processus, de jeunes adolescents. L'affaire de Mme Bell a suscité suffisamment de vagues pour que Boris Johnson demande une enquête. Il y a 9000 cas qui ont été étudiés ou réétudiés. Les conclusions sont accablantes, assez en tout cas pour que la clinique pédiatrique de réassignement de genre ferme ses portes en juillet dernier. Il y a un recours collectif qui a été annoncé au mois d'août dernier. On disait à ce moment-là que plus de 1000 personnes pourraient s'en réclamer de ce recours collectif. La clinique, c'était, quand je disais le ground zero, ou le point de départ, ça a été un modèle étudié, ça a été un modèle adopté. On venait de partout dans le monde. Il y a des Canadiens qui sont allés voir ce qui s'y passait, beaucoup d'Américains. Cité pour ses méthodes exemplaires, sinon un peu révolutionnaires les méthodes. Et évidemment, il y a, j'en suis convaincu, des gens qui ont été aidés. Et je le disais, je suis moi un profane. Je suis pas capable d'avoir une opinion définitive. Tous mes instincts disent, quand on commence à faire ce genre de choses avec des enfants, les parents, qui sont souvent un peu tassés, parce que les parents sont souvent considérés comme peu aidants, surtout s'ils s'opposent à ce que leurs enfants disent ou semblent sentir. Il arrive souvent que les parents soient un peu invités à prendre la distance, parce que pas suffisamment compétents pour comprendre ça. Puis je ne sais pas si on peut dire ça à des parents. Et je fais très attention dans le choix de mots, parce que c'est complexe. Je suis certain que ça a été une solution formidable pour ceux qui souffraient profondément de cette dysphorie de genre. Est-ce qu'il est possible qu'en si peu de temps en Angleterre seulement, il y ait une telle explosion de cas de dysphorie? Peut-être parce que pendant des années,
on n'en avait jamais
réprimé.
Parlé. Ouais,
exactement.
Ça.
Mais ce qu'on constate, c'est que les enquêtes, disons, post-opératoires, sondages, sur l'état de ces gens qui sont allés au bout sont très peu nombreuses. On fait très peu de suivi client. Et la prévalence des troubles, pour ce qu'on en soupçonne, la prévalence des troubles psychologiques, après ces conversions, demeure. Et c'est vrai que les gens qui souffrent de dysphorie, mais c'est vrai aussi de la communauté LGBTQ+, souffrent de dépression et d'enjeux de santé mentale dans des proportions qui sont légèrement, sinon significativement supérieures à l'ensemble de la population. On peut le comprendre, c'est des enjeux identitaires très forts, mais est-ce que d'avoir été au bout de cette transition solutionne tout? Et dans combien de temps serons-nous en mesure de tirer des conclusions? Parce qu'évidemment, il y a des détransitionneurs. Il y en a, on ne les entend pas beaucoup, des gens qui disent « Pourquoi ai-je fait ça? » Alors, est-ce que c'est la frange? Quelques cas, est-ce qu'il y en a plus? Il y a une espèce de silence, et je fais partie de ceux, parce que j'aime poser des questions, qui est en appel, justement, de cette documentation. J'aimerais entendre des gens qui nous parlent de leur expérience. Puis si c'est une solution, ben tant mieux. Mais quand je vois un des hôpitaux qui, au monde, était à la fine pointe de ces pratiques, choisit de fermer ses portes après qu'il y a eu, parce qu'il y a un lien entre l'enquête et leur décision, je ne peux pas le dire de façon définitive, mais il y a certainement des questions qui sont posées. Et on est parti de Balenciaga tout à l'heure. C'est cette idée qu'à 3, 4, 5, 6, 7 ans, on puisse déjà être si conscient de nos sexualités. Alors, il y a des sexologues qui disent, oui, on est des petits bébés sexuels à la naissance, tout de suite. Possiblement. Est-ce qu'on peut laisser notre inconscient sexuel s'exprimer tout seul sans qu'il soit encadré, sans qu'on ait à nous enseigner quoi que ce soit pendant un certain temps? Peut-être que c'est une bonne idée aussi. J'ai dit toutes sortes de mots qui font que je serai peut-être demain crucifié. Et ton silence extraordinairement rare à cette tribune me donne à penser que tu t'es dit « Je vais te laisser seul couler dans ce petit état. »
Non, en fait, c'est que t'as parlé vite. Et deux, j'essayais de voir où tu t'en allais. Et comme le sujet est délicat, je voulais te laisser toute la parole.
Je m'en allais là, c'est-à-dire que moi, ça relève de la même, puis j'essaierai de parler beaucoup plus lentement quand je parle de choses si graves.
Non, mais c'est qu'il y avait beaucoup de contenu, fait que je voulais juste être sûr de tout comprendre, mais...
En fait, ils m'ont dit, si tu fais une chronique qui est suffisamment dense et qu'on peut déplier la semaine prochaine en slow-mo, ça pourrait te permettre d'être absent 5 jours. Alors, j'ai réclamé, vous avez 5 jours pour déplier ma chronique, l'analyser, la revoir.
Mais si on la joue à l'envers, on apprend plein d'autres choses. Hein?
Mais c'est codé. Là, c'est la preuve de l'existence du diable que tu vas découvrir.
Mais comme dans Balagentia, là, parce que là... Je viens d'avoir...
Balagentia,
Balagentia. Non, mais tu ris, mais il y a comme une histoire, parce que là, Cybèle, elle m'envoyait des choses pendant qu'on parlait, d'une roulette de papier collant qui aurait été retrouvé aussi dans une des photos. Et là, c'est pas écrit Balagentia avec un A, mais avec deux A. Puis là, on se met à faire des traductions d'une langue qui existe pas. Puis là, ça dit Bal et le roi, puis le retour en enfer. Puis non, je te dis, si tu fais Balagentia complotiste sur le Journal de Montréal, il y a un excellent article là-dessus.
Vrai?
Oui.
J'ai toujours eu l'impression d'être quelques kilomètres en retard sur ce fer de lance de l'actualité qu'est le Journal de Montréal.
Ah, écoute, Balagentia, et le point du iceberg et le fond du iceberg, c'est les clients de Jeffrey Epstein.
Ben ça, c'est clair qu'il y avait là un terreau fertile. D'ailleurs, on ne connaît pas encore vraiment sa liste d'amis dans le détail. Madame Maxwell est vraiment... L'affaire est Maxwell, c'est le cas de le dire, parce qu'elle a été terriblement discrète. Elle n'a pas ouvert sa bouche. C'est une complice parfaite. Voilà quelqu'un avec qui on veut être dans le crime jusqu'au cou, parce qu'elle n'a largué personne.
Bon.
Mais tu sais, moi, je trouve formidable ces circonstances à elle, Mme Maxwell. Elle doit tous les jours se réveiller surprise de ce qu'elle ne s'est pas encore suicidée.
Stéphane, bonne émission ce soir et à lundi.
Lucien Bouchard à l'émission ce soir, un homme qui sort jamais, sinon rarement.
Hop, hop, hop. Salut.
Hop, hop, hop. Bye.